Chapitre 7e. Le doyen et le chapitre tiennent conseil. Tout Barchester était en révolution. Le docteur Grantly attendit à peine d'avoir dépassé le porche de la cathédrale pour faire éclater sa colère. Le vieux doyen se rendit silencieusement chez lui, sans oser parler. Là, il s'assit, dans une sorte de stupéfaction, et essaya, mais en vain, de réfléchir sur ce qui venait de se passer. M. Harding se glissa tristement sous les ormes du parvis, pouvant à peine croire encore que les paroles qu'il avait entendues étaient tombées de la chair de la cathédrale de Barchester. Ces troubles allaient-ils donc recommencer? Allaient-ils donc, une seconde fois, être ignominieusement convaincu d'avoir consacré sa vie à une œuvre inutile? Allait-il avoir à résigner son emploi de chantre, comme naguère celui de conservateur de l'hospice? Et après? Il se trouverait sans doute un autre M. Slope pour le déposséder de Saint Cuthbert. Bien certainement, il n'avait pas fait une œuvre mauvaise en chantant les litanies pendant tant d'années de sa vie, et pourtant, il commençait à avoir quelques doutes. Douter de lui-même était le point faible de M. Harding. Ce n'est pas, il faut le dire, le défaut ordinaire de son ordre. Oui, tout Barchester était en révolution. Ce n'était pas seulement le clergé qui était ému. La population laïque tout entière avait entendu avec surprise les doctrines nouvelles de M. Slow. Les uns avec indignation, les autres avec un sentiment moins violent auquel l'antipathie personnelle ne se mêlait pas. Le vieil évêque et ses chapelains, le doyen et ses chanoines, l'ancien chœur de la cathédrale, et en particulier M. Harding qu'il dirigeait, avaient été populaires à Barchester. Ils y avaient dépensé leur argent. Ils y avaient fait du bien. Ils n'avaient jamais méprisé ni opprimé les pauvres. Dans le monde, ils avaient évité l'excès de la tolérance et celui de l'austérité. C'était à son importance ecclésiastique que la ville devait sa célébrité. Et pourtant, il y eut des gens qui entendirent M. Slope avec satisfaction. Il est si agréable de se sentir tiré tout à coup de l'engourdissement où vous tient la monotonie d'une vie routinière. Les anciennes et les tédéums étaient certainement fort beaux, mais on les avait entendus si souvent. M. Slope, assurément, n'avait aucun charme, mais il était nouveau et de plus un habile homme. Qui sait s'il n'avait pas raison? Il faut en convenir. Le dimanche n'avait pas été strictement observé à Barchester, sauf en ce qui concernait les offices. Dans l'intervalle des deux services, on faisait des visites et l'on se livrait à la douceur des lunch chauds. Et puis, les écoles du dimanche, du sabbat, comme les avait appelées M. Slope, ne les avait-on pas un peu négligées? Peut-être l'évêque précédent n'y avait pas pensé comme il aurait dû le faire. Enfin, dans cette grande question des offices en musique, il y avait beaucoup à dire en faveur des arguments de M. Slope. On ne pouvait nier que bien des gens n'allassent à la cathédrale que pour entendre chanter, etc., etc. Il se forma donc à Barchester un parti favorable à M. Slope, surtout parmi les femmes de la haute société. Il n'était pas un homme, je veux dire un homme distingué de naissance, de manière et d'esprit, qui peut être attiré par M. Slope. Les femmes sont souvent des juges moins sévères des imperfections physiques. Pourvu qu'un homme leur parle bien, elles l'écouteront, sans voir si sa bouche est bien ou mal faite. Dans le clergé de la ville, quelques personnes pourtant trouvèrent imprudent de négliger l'homme, qui allait peut-être disposer des faveurs et des emplois dans le diocèse. Ils firent donc visite à M. Slope. Parmi eux était M. Quiverful, recteur de Puddingdale, dont la femme ne cessait de lui donner chaque année un nouveau gage de son amour, augmentant ainsi la somme de ses soucis et, il faut l'espérer, celle de son bonheur. Qui s'étonnera qu'avec 14 enfants et un maigre revenu de 400 livres, le pauvre recteur dévora des yeux toutes les bonnes choses que même la main d'un M. Slope pouvait laisser tomber. Peu de jours après, le dimanche où le sermon avait été prêché, les membres influents du clergé de la ville se réunirent pour aviser au moyen d'annihiler M. Slope. D'abord, il ne prêcherait pas une seconde fois dans la chaire de la cathédrale. Ce fut la première parole du docteur Grantly, et tous y acquiescèrent, pourvu toutefois qu'ils eussent le pouvoir de l'en exclure. Le docteur Grantly déclara que ce pouvoir appartenait au doyen et au chapitre. Aucun prêtre en dehors du chapitre n'avait le droit d'y prêcher que l'évêque lui-même. Le doyen reconnut l'exactitude de cette affirmation, mais allégua qu'il ne serait peut-être pas convenable de porter la lutte sur ce terrain. À quoi un petit chanoine maigre répliqua que M. Slope aurait le désavantage de la position si chacun des chanoines prébendés était toujours prêt à prendre place à son tour dans la chaire. Malicieux, le petit chanoine maigre, qui, content d'habiter sa jolie petite maison sur le parvis de Barchester, n'était pas fâché de donner un coup de patte au docteur Wesley Stanhope et aux autres absents, pour lesquels une villa en Italie ou une maison bien montée à Londres ont plus d'attrait que leur stalle à la cathédrale. Le corpulent chancelier, homme assez silencieux mais très sensé, répondit que les dignitaires absents avaient leur vicaire et qu'en pareil cas, le vicaire avait à la chaire le même droit que celui qu'il remplaçait. Le doyen reconnut la vérité de l'assertion avec un profond gémissement. Le chanoine maigre fit observer qu'ils seraient alors dans la main de leur vicaire, qui pourrait à toute heure tromper la foi qu'ils auraient mise en eux. Là-dessus, le corpulent chancelier fit entendre un son que l'on pourrait ainsi transcrire « pou 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 ». Peut-être était-il causé par l'air péniblement et violemment chassé des voies respiratoires. « Et pourquoi le réduirions-nous au silence absolu ?» suggéra M. Harding. « Ne considérons pas comme une humiliation d'avoir à entendre quelque prédicateur que ce soit, pourvu qu'il n'enseigne pas l'erreur. Dans ce cas, ce sera à l'évêque à lui imposer silence. » Ainsi parla notre ami, mais en vain. « Qui veut la fin, veut les moyens. » Le doyen, pourtant, vit comme une lueur d'espérance luire devant ses pauvres yeux affaiblis. Pourquoi ne dirait-il pas à l'évêque combien M. Slope leur était antipathique? Un évêque nouvellement installé ne pouvait vouloir insulter son clergé, tandis que son tablier, son premier tablier, brillait encore de tout son lustre récent. Alors se leva le docteur Grantly. Après avoir recueilli et comme condensé en lui-même la sagesse éparse dans les esprits de ses confrères, il parla avec autorité. Quand je dis qu'il se leva, je veux parler de l'être intérieur qui brûlait de s'élancer au combat. Quant au docteur lui-même, considéré dans sa personne, il était debout, adossé à la cheminée sans feu du doyen, les pans de son habit passés au-dessus de ses bras et les mains dans les poches de son haut-chausse. Il est évident que nous ne pouvons laisser cet homme prêcher une seconde fois dans la cathédrale. Cela est évident pour nous tous, excepté pour notre cher ami M. Harding, qui est tout douceur, tout bonté, et qui n'aurait pas le cœur de refuser sa chair au pape si le pape la lui demandait. Non, nous ne devons pas permettre à cet homme de faire un nouveau serment dans notre cathédrale. Ce n'est point parce que ses opinions, en matière ecclésiastique, peuvent différer des nôtres, mais parce qu'il nous a insultés de parti pris. Quand il est monté en chaire dimanche dernier, l'objet qu'il se proposait était de blesser des hommes qui ont vieilli dans le respect de choses dont il a osé parler avec mépris. Quoi ? Un étranger, jeune, inconnu, sans amis, arrive ici et nous dit, au nom de l'évêque, son maître, que nous sommes ignorants de nos devoirs, routiniers et inutiles. Je ne sais qu'admirer le plus, son ourage ou son impudence. Écoutez-moi bien. L'idée de ce sermon est de lui seul. L'évêque n'y était pour rien, pas plus que le doyen ici présent. Vous savez tous quel déplaisir j'éprouve à voir dans notre diocèse un évêque professant cette tolérance qui fait remarquer le docteur Proudie. Mais en ce qui touche le sermon, je le crois innocent. Je crois que le docteur Proudie a trop longtemps vécu parmi des gens bien élevés pour être coupable, ou pour inciter un autre à se rendre coupable, d'un si grossier outrage. Non! Cet homme mentait quand il disait être l'organe de l'évêque. Il convenait à ses vues ambitieuses de nous jeter le gant, de nous porter un défi dans le siège même de nos fonctions religieuses, dans les murs de notre bien-aimée cathédrale, où nous avons, pendant tant d'années, exercé notre ministère avec union, entouré du respect de nos fidèles. Une telle attaque dirigée contre nous par cet homme est abominable. Abominable, gémit le doyen. Abominable, murmura le chanoine maigre. Abominable, tirant ses syllabes du plus profond de sa vaste poitrine. Je le pense aussi, dit M. Harding. Absolument abominable et injustifiable, continua l'archidiacre.